Avec cette parole de la porte large et du chemin spacieux, nous avons vu hier qu'il peut y avoir des personnes qui désirent, certes, ce que le Seigneur Jésus a apporté sur la terre, la vie éternelle, en présence de Dieu, après cette vie sur la terre. Mais ils n'acceptent pas le véritable itinéraire, ils ne l'empruntent pas. Le véritable itinéraire, c'était donc la porte étroite et le chemin resserré. Eh bien, nous allons voir dans un autre récit de l'Évangile quelque chose d'analogue. Un homme qui lui aussi voulait être sauvé, voulait la vie éternelle, et il n'acceptait pourtant pas de faire ce qu'il fallait faire pour être assuré de la vie éternelle. C'est le récit du jeune homme riche, Matthieu 19, verset 16. « Et voici, un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Il lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon ? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels ? Lui dit-il. Et Jésus répondit, « Tu ne tueras point. » Tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, « Va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, « Je vous le dis en vérité, un riche, entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples ayant entendu cela furent très étonnés et dirent, « Qui peut donc être sauvé ?» Jésus les regarda et leur dit, « Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. »
Amen.
Amen. Voici donc ce jeune homme, et nous savons que, en faisant la somme des récits sur cette visite rendue au Seigneur Jésus, nous savons que ce jeune homme riche, Jésus l'avait considéré avec un sentiment d'affection. Il vient vers Jésus-Christ pour lui poser cette question, « Que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» C'est bien sûr une excellente question. C'est même la seule question qui importe, qui compte, qui doit toujours compter pour des hommes réfléchis, des hommes sages, des hommes qui ont la foi. La question est certes la question principale, avoir la vie éternelle. Mais derrière cette question, chez ce jeune homme riche et celui qui questionne Jésus, il y a une idée qui est déjà fixée Que cherche-t-il exactement, ce jeune homme? Est-ce que il cherche très sincèrement la voie qui mène à la vie éternelle? En réalité, son idée est déjà fixée, orientée. Il cherche une règle morale meilleure, plus sûre, qui lui garantirait la vie éternelle. Il veut s'entretenir avec lui de ce grand sujet, mais il n'a pas du tout dans la pensée de rechercher un ordre divin qui le lierait à ce Seigneur, à ce bon Maître qu'il a devant lui, qui le lierait sans retour. Ça, non, il n'a pas du tout envisagé cela, pas du tout. Une règle morale serait elle-même sévère, il l'accepterait. Il a pensé à cela. Il est venu avec cette idée arrêtée que le bon maître allait lui dire, eh bien, tu es israélite, tu as fait déjà quelques bons pas, tu es en bonne position, tu appartiens à ce peuple élu, il te faut encore peut-être faire ceci. Vous savez que c'était toujours la préoccupation des Juifs. Que faut-il faire pour être sauvé, pour avoir la vie éternelle? Et le Seigneur leur dira, l'œuvre que vous avez à faire, c'est de croire en celui que Dieu a envoyé vers vous. Il veut donc s'entretenir avec Jésus. Il ne pense pas du tout qu'il lui faudrait se donner lui-même, mais ce qu'il pense, c'est qu'il aura peut-être quelque chose de nouveau à envisager, à faire. Il lui faudra peut-être, sur certains points, modifier un peu sa vie. Le Seigneur lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon ?» Ceci dans Marc. Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Le jeune homme venait vers le bon rabbi, le bon maître, et le voici soudain en présence de Dieu. Il a compris, il a saisi ce que le Seigneur lui dit. Pourquoi m'appelles-tu bon? Le Seigneur ne lui dit pas, il ne faut pas que tu m'appelles bon. Conviens pas que tu m'appelles ainsi. Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Ce qui implique, ne comprends-tu pas? En présence de qui tu te trouves maintenant? Tu m'appelles bon. Tu as raison de m'appeler bon, mais il faut que tu saches pourquoi tu m'appelles bon. Ce n'est pas parce que je suis un rabbi. C'est parce que je suis Dieu, c'est parce que Dieu est devant toi. Il y avait, n'est-ce pas, dans cette réponse, ou de plutôt dans cette question de Jésus, il y avait cela. Il venait donc vers un maître, et le voici en présence de Dieu, obligé de penser à cette présence. Il n'y a de bon que Dieu. Obligé de penser à Dieu. Ne connaît-il pas les Écritures? Oh, sûrement. En bon Israélite qu'il est, il le dira, a observé toutes ces choses, tout ce que le Seigneur lui rappelle, il connaît certainement la parole. Et il ne peut pas manquer de connaître ceci, car ainsi parle l'Éternel à la maison d'Israël. Cherchez-moi et vous vivrez. Ne cherchez pas Bethel, n'allez pas à Gilgal, ne passez pas à Beersheba, car Gilgal sera captif et Bethel anéanti. Cherchez l'Éternel et vous vivrez. Craignez qu'il ne saisisse comme un feu la main de Joseph et que ce feu ne la dévore sans personne à Bethel pour entendre. N'allez pas à ces lieux célèbres en Israël, Bethel, Gilgal, Beersheba. N'allez pas chercher partout les lieux de la terre. Ce que vous désirez vivre, vous voulez la vie, une vie assurée, une vie que Dieu va vous garantir. Alors c'est pas la peine d'aller courir le monde, ce n'est pas la peine, les lieux les plus célèbres ne vous apporteront absolument rien. Cherchez l'Éternel et vous vivrez. Voilà des choses qui ne sont pas passées et qui déjà étaient dites au peuple d'Israël. Et le jeune homme riche ne pouvait pas ignorer ce passage que nous venons de lire et qui est dans le prophète Amos au chapitre 5. Alors, pourquoi questionne-t-il sur ce qu'il ne peut pas manquer de savoir déjà? Pourquoi questionne-t-il? Dieu ne l'a pas laissé dans l'ignorance. Recherchez le bien et non le mal afin que vous viviez, et qu'ainsi l'Éternel, le Dieu des armées, soit avec vous. C'est encore dans le chapitre 5 d'Amos, et cette fois-ci au verset 14. Recherchez le bien et non le mal, afin que vous viviez, et qu'ainsi l'Éternel, le Dieu des armées, soit avec vous, soit avec vous. Recherchez l'Éternel, et vous vivrez. Il faut que l'Éternel soit avec vous. Voilà l'accent, voilà la chose essentielle. Le bien, c'est ce que Dieu veut, et c'est ce que Dieu fait. Dieu ne peut faire que le bien, c'est ce qu'il veut pour ses créatures, les hommes, mais l'idée du bien que les hommes peuvent se donner à eux-mêmes, d'un bien abstrait, humainement conçu, est tout à fait fausse. Cette idée du bien venant de l'homme lui-même n'est pas juste. Il faut que la notion du bien vienne de Dieu lui-même. Nous savons ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Cet arbre de la connaissance du bien et du mal, avant d'en manger le fruit, l'homme et la femme avaient en eux la notion complète du bien, ils avaient, pourrait-on dire, la plénitude de la connaissance du bien et toutes les aptitudes, rien que des aptitudes en vue du bien. Ils n'avaient que cela, ils ne connaissaient pas pratiquement le mal, ils vont le connaître en mangeant le fruit. Je voudrais lire ici, dans le Lévitique, au chapitre 18 et au verset 5, « Vous observerez mes lois et mes ordonnances. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Je suis l'Éternel. Vous observerez mes lois et mes ordonnances, les lois de la vie. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Je suis l'Éternel. » Et le Seigneur va lui dire, « Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » Et sur la demande du jeune homme, lesquels, le Seigneur Jésus lui en énumère plusieurs. Mais pourquoi le jeune homme demande-t-il lesquels? Il connaît les commandements de Dieu, il les connaît sûrement, puisqu'il va dire tout à l'heure, « J'ai observé toutes ces choses. Je ne suis pas étonné que tu me dises ça, je connais bien cela, à telle enseigne que j'ai observé, j'ai suivi tout cela. » Il les connaît donc bien. Pourquoi demande-t-il lesquels? Vous voyez qu'ici, il y a quelque chose et qui n'est pas droit dans la pensée, dans le cœur de ce jeune homme. Ici, Satan apparaît. Nous avons déjà dit qu'il n'était pas nécessaire d'être un homme d'une méchanceté signalée, un homme terrible pour être l'instrument de Satan. On peut, dans le cours de sa vie, tout à coup se faire l'instrument de Satan. Si l'on ne prend pas garde, comme Pierre, comme c'est arrivé à Pierre, donner avantage à Satan eh bien, on peut lui donner avantage aussi dans son propre cœur, dans son propre cœur, dans sa pensée. Oui, le jeune homme riche connaît bien ses commandements, il n'avait pas besoin de demander lesquels, mais en demandant lesquels, il compose, il se donne du temps, il feinte un peu avec le Seigneur, il feinte. Que l'homme naturel se questionne au sujet des commandements ou de la parole de Dieu, eh bien, cela, on peut le dire, vient en ligne droite de la chute en Éden. La chute en Éden, où vous savez, il y a eu cette parole, Dieu a-t-il réellement dit, Dieu a-t-il réellement dit, oh, c'est une parole terrible, une parole charnière de ce qui s'est passé en Éden. Dieu a-t-il réellement dit, l'homme s'est départi de l'obéissance simple, franche, aisée à comprendre, obéissance facile à pratiquer, en acceptant des paroles de ce genre, des paroles où se glisse le doute. Dieu a-t-il réellement dit, en acceptant la discussion, en s'attachant aux subtilités de l'interprétation de la parole de Dieu? Pierre nous dit qu'aucune parole de Dieu ne fasse l'objet d'une interprétation personnelle ou particulière. Qu'aucune parole de Dieu... La parole de Dieu n'est pas donnée pour être interprétée. Je sais que nous avons souvent ce terme dans la bouche. Mais c'est une erreur, elle est là, et certes il faut la pénétrer, il faut la comprendre, il y a des parties difficiles, plus ou moins voilées, plus ou moins obscures, il faut sonder les Écritures avec le bon esprit, avec la foi, avec amour, avec le désir d'obéir à la parole de Dieu, mais cela n'est pas de l'interprétation. L'interprétation, c'est la liberté de faire voyager le sens d'une parole. Oh, comme on trouve ça chez nos théologiens. Ils sont très forts dans cet art-là. La parole de Dieu, oui, certes, littéralement peut dire ça. Mais si l'on pense de telle et telle manière, on arrive à ceci, on arrive à cela. Et puis on est parti de là, on est aux antipodes de ce que dit la parole de Dieu. Voilà ce qu'est cette ruse du diable, de l'interprétation de la parole de Dieu. Oh, je vous mets en garde, mes amis, contre cela. Je vous mets en garde. Et je vous mets en garde contre votre propre cœur, qui, nous le disions, peut fort bien laisser accès à l'esprit de l'ennemi, l'esprit de Satan, lorsque devant un commandement qu'on n'aime peut-être pas trop, un commandement qui, évidemment, on voudrait bien pouvoir dire, oh, moi, j'obéis à tout, à toute la parole. Oui, mais voilà, il y a un commandement, puis il y en a un autre. Ils sont un petit peu gênants, ces commandements-là. Alors, tout de même, on vit au XXe siècle, on est sollicité d'une manière et de l'autre dans la société où l'on vit, dans le monde. Alors, ces commandements-là, est-ce que c'est vraiment pour maintenant? Est-ce que c'est toujours applicable? Et qu'est-ce que ça signifie au juste? Et puis, c'est peut-être pas ce qu'on pense a priori, il y a peut-être... Vous voyez, n'est-ce pas, l'interprétation? L'interprétation n'est jamais droite, c'est la chute, je vous le disais, c'est la chute. C'est la chute, c'est l'esprit de la chute qui vient, c'est la puissance du péché, comme dit Paul, la loi du péché, la puissance du péché qui se présente. Oh, nous manquons de droiture, nous manquons de fidélité, nous manquons d'amour à Dieu lorsque nous prenons sa parole. Et que nous disons, mais Qu'est-ce que ça veut dire au juste? Mais est-ce que Dieu a réellement voulu dire ça, ou n'aurait-il pas voulu peut-être dire autre chose? Ah, mes amis, c'est avec ça, que la chute en Éden s'est produite. C'est avec ça que l'humanité est entrée dans cette affreuse et terrible tragédie et que tous les maux se sont abattus sur elle. Mais avec ça, avec cette parole-là, Dieu a-t-il réellement dit? Interprétons, voyons les nuances. Chers amis, une parole dit quelque chose. Et le Saint-Esprit est là pour nous conduire dans toute la vérité et nous montrer le sens véritable de la parole si nous sommes droits, si nous sommes sincères. On ne peut pas feinter et être fidèle. Ce n'est pas possible. L'homme, en mangeant le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, est entré dans cette connaissance, entré d'une manière pratique. Dans cette connaissance, c'est-à-dire qu'il n'avait pas du tout la pratique du mal. Il avait unilatéralement la pratique du bien. Il entre dans ces possibilités nouvelles. Voilà un ensemble, ses yeux, leurs yeux en effet, à Ève et à Adam, se sont ouverts et ils ont entrevu toutes sortes de choses. Comme nos philosophes aujourd'hui, nos écrivains, nos éducateurs dévoyés, pervers, entrevoient des choses, et ils disent, ah, on pourrait faire ceci, on peut faire cela. On peut introduire cela. Jusque-là, il y avait quoi? Des lois morales? Oh, il y avait les lois religieuses, comme on dit, qui empêchaient ça. Mais non, regardez, on peut faire ça. Et pourquoi ne ferait-on pas ça? Et aujourd'hui, on attaque quoi donc? Mais la famille. Pourquoi cette famille? D'où ça vient-il, cela? Mais nous n'avons pas besoin de ça. On attaque aussi le vêtement. Pourquoi pas le nudisme? Et vous voyez, n'est-ce pas, ces choses terribles, terribles qui surgissent là, parce que, précisément, on a la connaissance du mal dans cette dualité que Dieu n'avait pas voulu pour l'homme, la connaissance du bien et du mal. Dieu n'avait pas voulu cela pour l'homme. Lorsque les fils de tous ceux d'Israël qui avaient pénétré dans le désert, qui étaient morts, lorsque les fils arrivent vers le Jourdain, alors Dieu dit, je n'ai pas voulu pour eux la connaissance du bien et du mal. Connaissance du bien seulement. Connaissance du bien, connaissance de ce que Dieu a dit, de tout ce qui est sorti de la bouche de Dieu, de tout ce qui a manifesté son amour pour sa créature, afin qu'elle vive, afin qu'elle soit heureuse et vive. Et avec cette perversité qui est venue avec la connaissance du bien et du mal, alors, l'homme en est arrivé à attribuer à la parole de Dieu une ambiguïté qui vient seulement de son cœur troublé et pervers, une ambiguïté. J'ai observé ces choses, dira le jeune homme riche, au gré de son propre jugement. Il a observé ces choses. Il ne s'informe pas de savoir si Dieu est d'accord avec cela. Il sait que Dieu sonde les reins, les cœurs et les reins. C'est assez souvent proclamé dans l'Ancien Testament, cela. Mais non, il se contente de son jugement. J'ai observé ces choses. Et là, le jeune homme se révèle vraiment être l'homme dans le péché dissimulé, le péché qui est là encore au fond du cœur. Il se révèle être cet homme de la chute. La loi, il l'envisage. La loi, les commandements de Dieu, il les envisage en homme qui a le pouvoir de décider du bien et du mal. Et la loi qu'il conçoit ainsi, et dont il dit « j'ai observé toutes ces choses », cette loi-là, c'est une loi détachée de son auteur. Et chers amis, il peut arriver en effet que nous ayons la parole de Dieu dans notre pensée, mais que nous ayons une parole de Dieu détachée de l'auteur. Parole de Dieu qui a perdu son grand privilège, qui a perdu sa force, qui n'est plus le véhicule de la vie, qui est une parole à nous, une parole d'homme, une parole comme celle que Satan a pu prononcer devant le Seigneur Jésus dans le désert, car lui aussi a prononcé la parole de Dieu. Une parole détachée de son auteur. Savez-vous que les Juifs du temps du Seigneur Jésus, tous ces pharisiens, ces scribes, ces sadducéens, ces sacrificateurs, tous ces chefs des Juifs devant le Seigneur Jésus parlaient beaucoup de la loi. Ils la mettaient très haut, la loi, la Torah, la loi de Dieu. Eh bien, cette loi, elle était détachée de son auteur. La loi qu'ils avaient n'était plus la vraie loi de Dieu, la loi donnée par Dieu, et loi qui n'est pas seulement une parole, mais qui est esprit, car à tout commandement de Dieu est attaché un esprit, à telle enseigne que Jésus n'a pas accepté que Satan cite, en citant des paroles de l'Écriture, en tire la conclusion ou une invitation, ben, puisque tu sais, il est écrit que les anges te porteront sur leurs mains, jette-toi donc du haut de ce portique, jette-toi en bas, si tu es le Fils de Dieu. Mais vous savez que Jésus n'a pas accepté ça parce que la parole de Dieu avait simplement sa réalité littérale, mais dépouillée qu'elle était de son esprit, séparée de son auteur, séparée de la volonté de Dieu. On peut avoir une parole de Dieu, le sens littéral, peut-être même l'énoncé littéral de la parole de Dieu, et elle est séparée de la volonté de Dieu, séparée de l'esprit avec lequel Dieu a donné cette parole et pour lequel il a donné cette parole. Il faut comprendre cela, n'est-ce pas? Si je prends une parole dans la Sainte Écriture et que cette parole me touche et que je me sente invité à faire entrer cette parole dans la pratique de ma vie, de mon existence, eh bien, il faut que je sache, il faut que j'aie en mon cœur la connaissance de l'esprit avec lequel Dieu a donné cette parole. Sans quoi je risque d'en faire une contrefaçon, une affreuse contrefaçon, d'en faire peut-être une parole de Satan, je la mettrai en application tout à la satisfaction de l'ennemi et non pas à la satisfaction de Dieu. C'est quelque chose cela, prendre la parole de Dieu et s'en servir à faux, à tort, sans l'Esprit de Dieu. Et c'est ce que faisait ici ce jeune homme. C'est pourquoi son cas est intéressant. Son cas est très intéressant. Il faisait cela. Il venait avec cela. Et il avait un désir vrai de connaître le chemin assuré, un chemin peut-être plus assuré pour aller à la vie éternelle. Mais dans sa manière de converser avec Jésus, il feinte. Il feinte, il se présente vraiment comme celui dont le cœur n'est pas débarrassé du péché. Si tu veux être parfait, lui dit le Seigneur Jésus, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Le jeune homme riche allait donc au-devant d'une conversation. Il aurait bien aimé que l'on s'entretienne ensemble, ce bon maître et lui, sur la voie qui mène à l'éternité, qu'on en discute. Il aurait bien voulu connaître un avis venant de ce bon maître. Il avait en somme un problème en lui, mais le Seigneur Jésus ne se laisse pas piéger par le jeune homme, et tout de suite on voit que le maître ne porte pas intérêt au problème du jeune homme, cela ne l'intéresse pas. Discussion, interprétation, action intellectuelle, dérobade, que Jésus ne manquait pas de sentir, de voir, dérobade de l'homme naturel, tout cela c'était dans le problème du jeune homme, dans l'attitude du jeune homme, mais Jésus ne s'intéresse pas du tout à ça. À quoi s'intéresse-t-il? Au jeune homme lui-même. Au jeune homme, pas à son problème, pas à au démêlé de toutes ses pensées, pas à ses feintes, pas à ce qu'il, à cette idée qu'il s'était préparé lui-même, que sans doute le maître allait ajouter quelque chose qu'il pourrait faire au commandement qu'il connaissait déjà. Jésus sort de cela, laisse tout cela. Et il s'intéresse au jeune homme lui-même. C'est toujours ce que le Seigneur Jésus fait. Il s'intéresse à nous, à notre vie. Nous pouvons avoir des idées qui voyagent, qui vont, qui viennent, nous faire nous préparer nous-mêmes aussi des préjugés, des idées préconçues, des solutions peut-être. Nous sommes donnés nous-mêmes des interprétations, peut-être. Le Seigneur Jésus écarte tout cela, ça ne l'intéresse pas. Ça ne l'intéresse pas du tout. Ce qui l'intéresse, c'est notre vie, c'est nous. Et il reviendra toujours là, à ce point-là. Toi, ta vie, pauvre homme, pauvre femme, toi, tu ne sais pas que tu es pauvre et nu, malheureux, et que tu as besoin de moi. Tu ne sais pas que tu as besoin que je te donne des vêtements blancs, que je oigne tes yeux pour que tu vois clair. C'est à toi, c'est à la vie de celui qui est en sa présence qu'il s'intéresse. Ce qu'il faut et ce que Dieu veut, ce que Jésus veut, c'est que l'on obéisse. Et pour cela, pour que ce jeune homme ait à obéir, Jésus lui dit simplement, bon, eh bien, débarrasse-toi de tout ce qui te retient, de tout ce qui t'empêche de venir vers moi, vends tout cela, donne-le, donne ça aux pauvres, et puis tu seras libre et tu viendras. Viens et suis-moi. Suivre le Seigneur. Dans la discussion, dans l'interprétation, l'homme cherchera toujours un moyen de se justifier. Ah, ça, c'est une propension chez l'homme, de chercher à se justifier. Il n'y a plus cela chez les chrétiens ? Si, ça existe encore. Et il vaut mieux s'en débarrasser, je vous assure. Écoutez, dans la plupart des entretiens que j'ai pu avoir avec des chrétiens, et cela sur pas mal d'années, eh bien, j'ai toujours constaté cela et j'ai toujours buté là-dessus. Les personnes à qui je disais, eh bien, voilà, en vous, il y a sans doute ceci, cela qui ne va pas. Et alors, toujours j'entendais mon interlocuteur ou mon interlocutrice immédiatement partir en guerre pour se justifier. Ah non, 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 mais c'est que moi, je vous l'assure, non. Toujours, n'est-ce pas, le réflexe de venir se justifier. Quand Dieu reproche à l'homme d'avoir mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'homme dit, mais c'est la femme que tu as mise à côté de moi, c'est toi qui l'as mise cette femme, c'est toi, tu m'as donné cette femme et c'est elle, c'est elle. Et puis quand Dieu vient vers la femme et lui dit, pourquoi as-tu fait cela? C'est le serpent, c'est le serpent, c'est jamais soi, c'est jamais soi, on se met toujours en dehors, se justifier. Chers amis, il faut qu'un chrétien perde absolument cette mauvaise habitude-là. Parce qu'il n'y a pas de progrès possible. Si quand on me dit quelque chose, et pourtant l'Écriture nous montre qu'il faut qu'il y ait des conseils, que dans l'Église tout est prévu, organisé pour qu'il y ait, par voie de ministère notamment, des conseils, des exhortations. Alors si, en les entendant, n'est-ce pas, nous prenons ça comme un reproche, et puis nous disons, mais non, moi, n'est-ce pas, je n'ai pas, non, 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 c'est pas ça, moi j'ai pas fait ça, moi je n'ai pas vu les choses comme ça, mais non, au contraire, j'ai toujours fait ceci, j'ai toujours fait cela, j'ai toujours tout fait, toujours bien fait, n'est-ce pas, etc., voilà. Alors il n'y a plus moyen. Alors il n'y a plus moyen, le conseil de Dieu ne peut pas rentrer. Le conseil de Dieu ne peut pas rentrer, on se justifie. Et toujours, toujours, le besoin de tirer le soi des arguments qui justifient. Autrement dit, n'est-ce pas, de se réinstaller confortablement dans sa propre justice. C'est pas autre chose. Je le disais hier, n'est-ce pas, dans la vie chrétienne, le sentiment d'une propre justice peut très bien réapparaître et avec facilité. Et cela, chers amis, ça contrecarre l'action du Saint-Esprit qui veut nous sanctifier, ne peut pas nous sanctifier. Il y a des raideurs, des résistances, il y a de la rébellion dans le cœur. Le Saint-Esprit ne peut pas nous justifier dans de telles conditions. Un cœur brisé, nous demande le Seigneur. Il aime que l'on vienne avec un cœur brisé. Bien sûr, vous me direz, mais je ne peux pas me laisser quand même accuser de ce que je n'ai pas fait. Il n'est pas question de ça. Mais nous avons fait suffisamment de choses, ou nous avons manqué suffisamment de choses, n'est-ce pas, pour que nous puissions accepter la réprimande de Dieu, si jamais elle prend la forme d'une réprimande, ou en tout cas l'exhortation de Dieu qui nous éclaire sur le fond de notre cœur, qui nous éclaire sur notre marche, qui n'a pas été droite, qui n'a pas été bonne, qui n'a pas honoré le Seigneur. Mais si nous avons toujours ce cœur-là prêt à réagir, c'est la révolte du jardin d'Éden, ça. C'est même quelquefois, chers amis, le feu de l'enfer qui brûle. Oui, c'est pas le feu de l'amour de Dieu, c'est le feu de l'enfer. On passe très bien, vous savez, du ciel à l'enfer, facilement. Il faut faire attention à cela, chers amis. Il faut faire, je vous dis ces choses-là, non pas pour vous bousculer, n'en est pas du tout l'intention, mais pour que vous réfléchissiez à cela. Il y a des travers, il y a des travers, encore chez nous, chrétiens, il faut absolument révoquer. Il faut s'en défaire, il faut s'en débarrasser, il faut que nous soyons accessibles. Il m'est arrivé, par exemple, quelquefois, de dire avec toutes sortes de ménagements à des personnes, ou bien, par exemple, que le don spirituel qu'elles avaient cru pouvoir exercer dans le culte n'était pas bon, n'était pas inspiré, n'est-ce pas? Et puis alors, mais c'est l'esprit, mais c'est l'esprit! Et j'ai montré plus d'une fois à des personnes, c'est pas l'esprit, allons, voyons, admettez que ce n'est pas l'esprit, vous vous êtes trompé. Je ne vous accable pas, mais vous vous êtes trompé, mais c'est dur. C'est pas possible que vous soyez comme ça, n'est-ce pas? Il faut certainement que il faut, et vous l'êtes déjà, mais il faut l'être peut-être davantage, accessible au conseil de Dieu, chers amis, accessible. Et si nous sentons un petit peu la gêne ou la morsure de l'humiliation, acceptons-la, elle est bonne. Et le Seigneur nous dit que c'est pour notre bien qu'il nous humilie. C'est pas parce que cela lui est agréable, loin de là, c'est pour notre bien. Et le psalmiste le sait très bien qu'il a été humilié par Dieu, mais que c'était pour son bien. C'est pour notre bien. Et acceptons, et soyons capables d'accepter une parole qui nous humilie. À la nature humaine. La nature humaine, il faut qu'elle soit dans la mort. Parce que tant qu'elle revit un petit peu, n'est-ce pas, elle fait réapparaître la chute. Exactement la chute. Exactement le péché d'Éden. Vends ce que tu possèdes et donne-le aux pauvres. Bien sûr, ça c'était le problème de ce jeune homme qui était riche, qui avait de grands biens. Ne croyez pas que c'est le problème de tout le monde et que c'est parce que vous avez un peu d'argent à la caisse d'épargne que les choses ne vont pas. Non, ce n'est pas cela, n'est-ce pas? C'est parce que le Seigneur a voulu dire. Mais là, n'est-ce pas, considérons bien que dans le cas de ce jeune homme, son attache, mais alors une attache qui était comme une amarre de bateau, n'est-ce pas, c'était une attache solide, c'était sa richesse. Sa richesse et sa grande richesse lui laissait bien le loisir d'observer à sa guise, à son gré, les commandements de Dieu, mais ne lui laissait pas le loisir d'être libre pour suivre le Seigneur Jésus. Suivre Jésus, si encore, le Seigneur lui avait dit, écoute, viens une quinzaine de jours, on vient même un mois avec moi, tu vas faire un stage là. Oui, il serait venu, bien sûr qu'il serait venu, mais si le Seigneur aussi lui avait dit, écoute, ton existence est un petit peu confortable, trop confortable quand même, tu vis un petit peu dans l'opulence, tu sais, alors pendant quelque temps tu vas adopter un style de vie différent, le mien, tu sais, le mien. C'est un peu juste, n'est-ce pas? Je n'ai pas de quoi ou je n'ai pas de lieu pour reposer ma tête. Et puis on va de lieu en lieu, on mange ce qu'on peut. Alors tu vas pendant un temps adopter ce style de vie. Le jeune homme aurait dit oui, oui, bon, oui. Je mettrai un régisseur, je mettrai un économe pour s'occuper de mes biens pendant mon absence. Oui, je veux bien adopter un style de vie. Oui, pareil au tien. Mais il s'agissait de suivre pour toujours. Il s'agissait de suivre le Seigneur d'une manière irrévocable, sans retour en arrière. Ah, pour cela, il fallait couper toute possibilité de recul. Et sa grande richesse, ce lien qui le liait à la terre et au monde, c'était une amarre solide. Ça pouvait au besoin donner un peu de lest, comme on le fait aux amarres des bateaux, n'est-ce pas? Mais avec une limite. Eh bien, il fallait couper cela. Pas de possibilité de recul ou de partage entre deux maîtres. Ça, le Seigneur Jésus ne l'a jamais voulu. Vous savez, il n'est pas nécessaire d'avoir des richesses grandes ou moins grandes pour avoir un lien comme avec la terre, comme l'avait ce jeune homme. Ça peut venir de toutes sortes d'autres choses, vous savez, d'autres choses. Par conséquent, ce que nous trouvons dans ce récit, ne l'attachons pas au fait que ce jeune homme avait de grands biens et que pour lui son attache, c'était la richesse, mais pensons qu'il peut y avoir autre chose que cela. Il peut y avoir, par exemple, des attaches familiales. qu'on ne peut pas briser. J'ai connu divers cas comme ça. Une femme, par exemple, qui était tout près du baptême, qui allait le prendre, qui avait bien suivi, qui se sentait véritablement visitée en elle, dans son cœur, appelée. Et puis elle reçoit une lettre de sa fille qui lui dit « Maman, si tu fais cela, ce sera fini entre nous, tu ne nous verras plus et tu ne verras plus tes petits-enfants. » Elle est venue tremblant, pleurant avec cette lettre en me disant « Lisez cela. » Oui, j'ai lu, oui. Alors, que faut-il faire? Eh bien, je lui dis, il faut continuer d'aller vers le Seigneur Jésus. Mais ça va rompre, ça va casser. Ça ne fait rien, laissez faire. Remettez cela à Dieu. Ah non, je ne peux pas. Et elle est repartie. N'est-ce pas? Vous voyez, ça peut être un lien comme celui-là, ça peut être toutes sortes d'autres choses. Ça peut être une question professionnelle, par exemple, n'est-ce pas? Une profession qu'on ne veut pas lâcher, par exemple. Ça peut être une idole, une autre idole, ça peut être un tas de choses qui nous lient au monde ou à la terre, et des liens tels qu'il faut absolument les briser pour suivre le Seigneur Jésus. Donc, pas de partage. C'est ainsi que Jésus aime, que Dieu aime, et vous ne ferez pas les choses autrement. Jésus aime comme cela. Il aime en Dieu jaloux qu'il est, en Dieu exclusif qu'il est. C'est pas la peine d'essayer d'amadouer ça, n'est-ce pas, cette parole-là. Elle est absolue. Dieu est un Dieu jaloux, exclusif. Il nous veut tout entier pour lui. Et le Seigneur Jésus, qui révèle Dieu, qui nous apporte le fruit de la rédemption, nous veut, bien sûr, tout à lui. Chez le jeune homme riche, que voit-on par conséquent? Eh bien, on voit que le moi est attaché à cette possession de grandes richesses. Ce moi, en somme, se trouve là, renforcé, possède une puissance établie sur l'importance des richesses que possédait le jeune homme. Alors ce moi est solidement lié à l'existence présente de la terre et l'idole volumineuse de cet homme était là. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus lui dit « Va, vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, viens et suis-moi. » C'était l'idole énorme, volumineuse. Comment voulez-vous que le Seigneur Jésus accepte d'indiquer la voie de la vie éternelle, de promettre la vie éternelle, de donner, parce qu'il vient la donner, la vie éternelle, donner la vie éternelle à celui qui est arrivé à la terre et qui est attaché à une grosse idole? Mais c'est impossible, ça. C'est absolument impossible. Cette idole fermait littéralement le royaume de Dieu à cet homme. Et ce jeune homme venait donc chercher à parfaire peut-être le bien qu'il estimait avoir fait, les choses bonnes qu'il avait accomplies. Il cherchait le bien, en somme, à faire le bien, car il voulait faire le bien. Il voulait, n'est-ce pas? Ce qu'il y a de remarquable dans ce cas, c'est que ce jeune homme était vraiment désireux de faire le bien, d'aller jusqu'au bout pour faire le bien sur la terre, mais le bien hors de Dieu. Et ça, vous voyez comme Jésus l'avait compris à la première minute. Parce que, le Seigneur Jésus a un regard qui plonge tout de suite là, qui plonge dans le cœur. Pourquoi m'appelles-tu bon? Parce que tu voudrais, n'est-ce pas, faire le bien sans moi, sans Dieu. Et cela, mon ami, c'est pas possible. Ce que tu veux là n'est pas possible. Alors il faut que cet homme renonce à lui-même. Mais cela ne se fera pas. Pour renoncer à lui-même, il faudrait qu'il renonce à ce poids énorme d'or qui le relie à la terre. Et le jeune homme s'en va tout triste. Il s'en alla tout triste. Il quitte le Seigneur, le prince de la vie. Il s'en va vers la terre destinée au jugement, la terre destinée au feu, lui-même destiné à la mort, qui va être la mort du corps et en même temps la seconde mort, à la perdition. Il s'en va vers cette épouvantable destinée pour pendant encore peut-être quelques années, il était jeune, bon peut-être quelques dizaines d'années, pouvoir jouir de cet or. Il s'en va. Et le prince de la vie, il le laisse aller, le laisse partir. Le prince de la vie s'en va. Il s'en va, lui, tout triste, l'un de son côté, l'autre de l'autre. Chers amis, est-ce que vous marchez avec le Seigneur Jésus? Est-ce que vous êtes avec lui? Est-ce que vous êtes derrière lui? Est-ce que vous êtes sur ses pas? Est-ce que vous mettez vos pieds dans les pas du Seigneur pour le suivre, ou le laissez-vous aller dans un sens et vous dans un autre? Vous me direz, mais non, je suis chrétien, voyons. Attention, nous sommes là pour reconsidérer ensemble ce que doit être une véritable vie chrétienne dans laquelle on marche vers la cité de Dieu, vers la vie éternelle. Et nous sommes là pour examiner tout ce qui pourrait encore être illusion à ce sujet, ou tout ce qui pourrait nous distraire, nous éloigner d'une authentique marche avec le Seigneur Jésus. Eh bien, le jeune homme a opté. Il n'y avait pas en son cœur un désir. Il avait bien le désir, comme je l'ai dit, de la vie éternelle, mais pas un désir indépendant de ce qu'il avait déjà dans le cœur, cet attachement à ses richesses et des idées qu'il s'était faites lui-même de réaliser le bien en dehors de Dieu. Et c'était le propre des Juifs, ça, surtout au moment de Jésus, n'est-ce pas? Ils croyaient faire le bien, mais en dehors de Dieu. Ils le faisaient en dehors de Dieu. Il s'était construit une espérance personnelle. La vie éternelle, il la voulait. Mais après avoir ménagé les brillants avantages de son existence présente, il voulait la vie éternelle conditionnellement. Conditionnellement. Alors il s'était construit une espérance personnelle, vivre dans le bien-être, vivre entouré de cette sécurité que lui procuraient ces vases, car à ce moment-là, les trésors étaient dans des vases, non pas dans des coffres-forts. Alors, il aimait de temps en temps aller dans les pièces de sa vaste maison, regarder les vases, donner un petit coup de pied, ça sonne bien, ça. Et il avait le cœur, en fait, le cœur rassuré de cela. Alors, il voulait vivre dans le bien-être, entouré d'une fortune opulente, et en même temps, certes, continuer d'être un Israélite consciencieux, d'observer les préceptes de la loi de Moïse, selon la conception courante, la conception de ces messieurs, les grands maîtres de la religion. Il pensait que tout irait bien de cette manière-là, et en allant voir le bon rabbi, le bon maître, il se disait, sans doute va-t-il me demander d'ajouter quelque chose, mais ça, je suis prêt. Moi, je suis prêt à ajouter encore un commandement ou deux, trois ou quatre même, si l'on veut, n'est-ce pas? Je veux bien encore ajouter cela. Ainsi, je me compose une existence, une vie. J'ai ménagé la vie sur la terre. Elle est bien gagée. J'y trouve de bonnes assurances jusqu'au moment, hélas, où il faudra que j'abandonne la terre, mais j'ai encore le temps, je suis jeune, donc j'ai tout cela. Et puis, je veux tout de même, n'est-ce pas, je pense que la position religieuse, la position du juif est très bonne, je suis dans le peuple élu, je désire la vie éternelle, tiens, voici un prophète venu de Dieu, on va le consulter. Que va-t-il nous dire de plus? Que va nous dire de plus notre position de chrétien évangélique? Notre position de chrétien évangélique n'a de raison et n'a de réalité que si nous avons accepté de renoncer à nous-mêmes, de renoncer à ce moi, au moi, et de suivre Jésus sincèrement, véritablement, d'être à lui, de lui appartenir entièrement. On ne peut pas appartenir à moitié, ou même pour les trois quarts, lui appartenir entièrement. Voilà ce qui justifie notre place dans la foi évangélique, dans l'Église évangélique, l'Église de Jésus-Christ. Eh bien, l'espérance du jeune homme est mise en pièces par le Seigneur Jésus, qui dit en somme non à une telle espérance. Vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, viens et suis-moi. Voilà le nom. Bah, coupe ça et puis viens. Et la communion avec Jésus, il fallait qu'elle ait pour prix ce sacrifice du moi. Et toujours maintenant, la communion avec la communion authentique, délicieuse, merveilleuse, magnifique avec le Seigneur Jésus sera au prix d'un renoncement à soi. Celui qui veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Et ce n'est pas difficile. Et ce n'est pas une chose ingrate non plus. Les commandements du Seigneur ne sont pas pénibles si nous venons vers lui avec foi, si nous faisons ce qu'il nous dit entièrement et continuons et persévérons pendant notre marche chrétienne, nous ne savons pas combien de temps elle durera, persévérons en cela, en cette communion avec le Seigneur Jésus. Le jeune homme avait donc une existence garantie essentiellement par sa richesse et il ne peut pas accepter. Il aurait bien voulu, même s'il l'avait fallu, vénérer le maître. Ah oui, il aurait été prêt à vénérer ce maître. Si ce maître lui avait dit « Tu viendras de temps à autre et puis tu te prosterneras, tu me vénéreras », il aurait été prêt à le faire, mais à lui obéir, non. Il dit non à l'obéissance. Et chers amis, pour nous, il n'est pas de problème difficile, il n'est pas de problème insoluble, il n'y a qu'une chose. Une seule chose, maintenant que nous sommes au Seigneur, que nous sommes entrés dans la maison, et que nous avons reçu ce pouvoir qui nous a donné la possibilité de devenir enfants de Dieu, il n'y a plus qu'une chose. De tout notre cœur, avec tout notre amour, obéir. Obéir simplement, purement, à toute la parole de Dieu. Amen.
Amen. Amen.